11h01.
Chapitre 124. L'aiguille.
Le lendemain matin, la mer toujours inapaisée roulait de longues et lentes puissantes lames et venait jusque dans le sillage gargouillant du Pequod pousser le navire en avant comme avec les paumes grandes ouvertes de géants. La brise soufflait en rafales si obstinément vigoureuses que le ciel et l'air semblaient d'immenses voiles gonflées. L'univers tout entier filait toute sa toile déployée devant le vent. Le soleil visible voilé dans la lumière vive du matin ne relevait sa présence que par la seule intensité du faisceau rayonnant de ses baïonnettes de feu. Tout n'était couleur que couleur resplendissante, digne des rois et des reines de Babylone, et la mer semblait un creuset d'or fondu qui bouillonnait de lumière et de chaleur. Akab se tenait à l'écart et demeura longtemps plongé dans un silence enchanté. Chaque fois que le navire, titubant, piquait du nez, enfonçant son beau pré dans l'abîme, il levait les yeux vers les rayons flamboyants du soleil à l'avant et quand il tanguait lourdement sur l'arrière, il se retournait pour contempler l'astre dont les mêmes dards dorés se mêlaient à son inexorable sillage. « Ah, mon navire, on pourrait te prendre en cet instant pour le cher marin du soleil. Ô nation du monde, vous toutes dispersées devant ma proue, je vous apporte le soleil. Attelez les houles lointaines au timon de mon vaisseau. Oh là, je suis le timonier des océans. » Mais une pensée contraire lui fit soudain serrer la bride. Il se précipita vers la barre et demanda d'une voix altérée quel était le cap du navire. « Est, sud-est, monsieur, » répondit l'homme effrayé. « Tu mens !» Et il lui assena un coup de son poing fermé. « Le cap à l'est, à 7h du matin, avec le soleil en poupe ?» La consternation était générale, car le phénomène que venait de remarquer Akab avait inexplicablement échappé à tous, en raison même, sans doute, de son aveuglante évidence. Passant à demi la tête dans l'habitacle, Akab jeta un coup d'œil au compas. Son bras levé retomba lentement et pendant un instant il parut chanceler. Starbuck, qui était derrière lui, regardait aussi et, surprise, les deux aiguilles indiquaient l'est, alors que sans doute possible, le Pequod faisait route vers l'ouest. Mais avant que la première alarme eût pu se répandre dangereusement parmi l'équipage, le vieil homme s'écria avec un rire glacé. « Je comprends, cela s'est déjà produit. La foudre de la nuit dernière a faussé les compas, monsieur Starbuck. » Voilà tout. Vous avez déjà entendu parler de ces phénomènes, j'imagine. Oui, mais je n'avais encore jamais été personnellement témoin, monsieur, répondit le second, pâle d'une voix lugubre. Il faut dire ici que les accidents de ce type sont advenus plus d'une fois sur des navires pris dans de violents orages. Personne n'ignore que la force magnétique des aiguilles des marins n'est pas substantiellement différente de l'électricité que l'on constate dans l'air. Aussi ne serait-on vraiment s'étonner que de telles choses arrivent. En certains cas où la foudre a bel et bien frappé le vaisseau, endommageant une partie des épars et du gréement, l'effet produit sur l'aiguille a pu être encore bien plus désastreux. Sa vertu d'aimant étant détruite, l'index présumé magnétique n'ayant pas plus d'utilité qu'une aiguille à tricoter d'une vieille femme. Mais en règle générale, l'aimant ne recouvre jamais de lui-même sa capacité originale, ainsi altérée ou perdue. Et si les instruments de l'habitacle sont touchés, tous ceux qui se trouvent à bord subissent le même sort, et quand bien même ils seraient encastrés dans la contrequille. Résolument campé devant l'habitacle et fixant les compas affolés, le vieil homme, du tranchant de sa main tendue, prit la position exacte du soleil et, ayant vérifié que les aiguilles étaient précisément inversées, il donna ses ordres pour que le cap du navire fût modifié en conséquence. Les vergues furent brassées sous le vent et une fois de plus le Pequod jeta sa proue intrépide dans la brise contraire puisque le vent supposé favorable l'avait en réalité trompé. Durant ce temps, quelles que fussent les pensées secrètes, Starbuck ne disait mot, se contentant de transmettre d'un ton calme les ordres nécessaires tandis que Stubb et Flask, qui semblaient partager plus ou moins ses sentiments, obtempéraient eux aussi sans faire entendre le moindre murmure. Quant aux hommes, si certains grommelaient, ils craignaient Akab bien plus que le destin. Les harponneurs païens demeuraient comme toujours complètement impassibles, ou bien, s'ils étaient impressionnés, c'était par le magnétisme de leur cœur, de l'inflexible, d'Akab, répandait dans le leur, prêt à l'accueillir. Pendant un moment, le vieil homme arpenta le pont, en proie à des songeries houleuses. Mais son talon d'ivoire venant à glisser, il aperçut les débris des tubes de cuivre du sextant qu'il avait brisé la veille et sur les mêmes planches. Pauvre et fier guetteur le ciel, pilote du soleil, hier je t'ai naufragé et aujourd'hui les compas auraient bien aimé me rendre l'appareil. Oui, c'est ainsi, mais Akab est toujours maître et seigneur de l'aimant. Monsieur Starbuck, une lance sans lent ampe, un maillet et pas plus fine des aiguilles à voile. Vite. En plus de l'impulsion qui lui dictait ce qu'il était sur le point de faire, Akab était peut-être inspiré par certains mobiles de prudence, visant à ranimer l'ardeur de son équipage par une démonstration d'adresse et de subtilité lors d'un épisode aussi extraordinaire que celui de l'inversion des aiguilles d'un compas. De surcroît, le vieil homme n'était pas sans savoir que l'on peut toujours gouverner tant bien que mal avec des aiguilles retournées. Mais que la chose ne laissait pas de provoquer chez un marin superstitieux des tremblements d'effroi devant ce qu'il prendrait pour un funeste présage. « Matelot !» dit-il en se tournant lentement vers l'équipage, tandis que le second lui tendait les objets demandés. « Marin du Pécode, la foudre a inversé les aiguilles du vieil Akab, mais avec ce morceau d'acier, Akab est capable de fabriquer son propre compas qui montrera la direction aussi sûrement que n'importe quel autre. » En entendant ces mots, les marins échangèrent des regards d'étonnement et de soumission mêlés. Ils attendaient fascinés de voir quelle sorte de magie allait se produire. Starbuck, lui, détourna les yeux. D'un coup de maillet, Akab détacha la pointe d'acier de la lance, puis passant au second, la longue tige de fer, il le pria de la tenir droite sans qu'elle ne touche les planches du pont. Il frappa plusieurs fois du maillet à l'extrémité supérieure de la lance sur laquelle il posa, de champ, l'aiguille émoussée et martela encore un peu. Moins fort à présent, le second tenant toujours la verge comme devant. Il lui imprima alors quelques discrets et singuliers mouvements dont il est difficile de dire s'ils étaient indispensables à la magnétisation de l'acier ou simplement destinés à accroître l'effroi sacré des hommes, et demanda du fil de lin. Revenant ensuite à l'habitacle, il en retira les deux aiguilles fossées et suspendit horizontalement par son milieu, l'une au-dessus de l'une des roses devant, l'aiguille à voile. Celle-ci commença par tourner sur elle-même, frémissant et vibrant à ses deux extrémités, mais elle finit par le fixer à sa place. À ce moment, Akab, qui avait anxieusement guetté ce résultat, recula à une bonne distance de l'habitacle, tendit le bras vers le compas et s'exclama. « Voyez par vous-même si Akab n'est pas le seigneur et maître de l'aimant. Le soleil est à l'est et cette boussole en fait le serment. » Ils s'approchèrent et glissèrent l'un après l'autre un œil dans l'habitacle, car seul le regard de chacun pouvait avoir raison de son ignorance. Et l'un après l'autre, ils s'éloignèrent discrètement. On lisait alors dans les yeux d'Akab, flamboyant de mépris et de triomphe, tout son funeste orgueil.